Bonjour à tous, Direct en jeu, Radio Insolite. Radio Insolite qui est un peu triste ce matin puisque sans mettre de réveil, je me suis réveillé à 5h50 et j'ai vu la dernière de JJB, comme je l'appelle, Jean-Jacques Bourdin. Ça, c'était une dernière assez émouvante. Un type qui m'a sûrement guidé dans ce que je fais, dans ce que j'ai envie de faire, dans les invitations que j'envoie, dans les interviews que je reçois. Et tu es toi, Priscilla, tout à fait l'image des personnes que j'apprécie d'accueillir sur l'antenne de Direct en jeu, la Radio Insolite. Bonjour à toi, Priscilla.
Eh bien, bonjour Alain, et puis merci pour cet énorme compliment. On fera tout pour être à la hauteur.
Eh bien, écoute, il disait que j'aime bien, parce que Jean-Jacques Bourdin, il faudrait que je revisionne et je reprenne quelques idées. Il parlait d'authentique, il parlait de sincère, il parlait de vérité, il parlait de simplicité. Il disait aussi un truc que j'ai repris avec quelqu'un qui me l'avait dit, les gens ordinaires qui font des choses extraordinaires, et tu en fais partie. Et pourquoi tu en fais partie? Parce que tu es, je sais pas comment est-ce qu'il faut te définir, j'ai quelques soucis. Alors toi, qu'est-ce que tu fais? On est en plein confinement. Et tu te lances. Tu te dis, comment faire pour m'occuper? Je vais peut-être y aller, donc je suis confiné, qui sait? Voilà. Et tu te lances. D'abord, au fait, question traditionnelle, qui es-tu? Que fais-tu dans la vie?
Et dans quelle étagère? effectivement, quand tu parlais d'authenticité et de vérité, en fait, moi, je suis quelqu'un avant tout de passionné, et du coup, c'est beaucoup plus fort que moi. J'ai deux sujets qui m'animent depuis toujours, c'est celui de la solidarité et également celui du vélo, donc la mobilité, mais sous un axe un peu plus réduit. Et du coup, ça fait une dizaine d'années que j'agis directement dans ces domaines-là. Et effectivement, durant le confinement, il y a eu deux choses qui ont pu se lancer. Donc, un sujet qui a été effectivement ponctuel parce qu'il y a eu une urgence et parce que applaudir à ma fenêtre tous les soirs à 20h, c'était largement insuffisant par rapport à ma volonté d'agir. Et c'est donc le sujet des coursiers solidaires qu'on a pu lancer à Lyon, où actuellement, en fait, on a quasiment 500 volontaires. Et le deuxième, qui me tient d'autant plus à cœur parce que c'est une vocation au-delà d'être une passion, c'est le lancement d'un atelier de formation de personnes très éloignées de l'emploi au métier de mécanicien cycle, réparateur à vélo.
D'accord. Donc, alors, attends, pause, parce que là, il y a un mot que tu as cité, mais alors, excuse-moi, je sais pas ce que ça veut dire. Est-ce que je peux me permettre de te demander de la définition de ce mot-là?
Bien sûr, absolument.
Quoi? Solidarité?
Non, solidarité.
Qu'est-ce qui s'est étonné? Attends, on sort du confinement, on commence à rentrer dans les vacances d'été, on vient de vivre des trucs complètement fous, et tu parles de solidarité? C'est quoi? Ça veut dire quoi?
La solidarité, pour moi, c'est beaucoup plus qu'un concept. Alors, je sais que de nos jours, c'est de plus en plus usé comme terme et beaucoup moins séduisant.
En tout cas, je peux dire que ton concept, il me plaît. Alors là, j'y adhère à 200%. Vas-y, donc.
Pour moi, dans la société, en fait, on est tous liés. On fait tous partie d'une histoire commune. Et je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui se disent « moi, je me suis réalisée tout seul, j'ai tout fait toute seule ». Je n'y crois pas du tout à ce concept-là. Je suis persuadée qu'il y a toujours eu quelqu'un qui nous a donné une petite phrase, un petit mot, qui nous a dépanné un service à un moment donné, qui nous ont permis après, derrière, donc d'aller de l'avant. Et pour moi, c'est des chances qu'on a pu tous recevoir et qu'il est responsable, on va dire, de repartager à notre tour. D'où cette volonté de m'ancrer dans ce mouvement-là.
Oui, mais la chance, parfois, il faut savoir la saisir. Et je me rappelle, pour un travail sur le Tour de France, moi, à un moment donné, on m'a parlé du money time, c'est-à-dire une chance qui se présente, mais ça se présente 10 secondes dans une vie peut-être. Il ne faut pas passer à côté.
Ce qui est certain, c'est que la vie chaque jour est faite d'opportunités, non pas uniquement des opportunités financières, mais de savoir qui on veut être au quotidien, quel genre de personne on veut être et partager et devenir, et qu'est-ce qu'on veut donner, on va dire, aux personnes qui nous entourent. Et cette occasion-là, en fait, on l'a tous les jours au-delà du money time, c'est surtout du human time, c'est qu'est-ce qu'on laisse de nous, quoi, tout simplement.
Attends, mais dis-moi, qui es-tu, toi? Tu viens d'atterrir, là, sur la planète Terre? D'où tu viens exactement, pour avoir ce type de raisonnement?
Alors, ce type de raisonnement, je crois qu'il me dépasse, et qu'il y a un petit bonhomme, je crois qu'il s'appelle, Bouddha ou Gandhi ou genre de choses-là, qui disait que fallait construire, non pas le monde dans lequel on est, mais celui pour lequel on aimerait appartenir, en fait, tous les jours. ne pas être en réaction à ce qu'on nous apporte, mais au contraire créer ce qu'on aimerait avoir comme quotidien.
Dans ton historique, tu as des circonstances atténuantes, tu as des parents qui étaient déjà comme ça, tu as fait la rencontre de
des
ta
coups
vie.
Sur la tête.
On t'a frappé, on t'a ingurgité un autre cerveau. Comment ça peut expliquer cette démarche?
Non, je pense que tout va bien. J'ai fait beaucoup de chutes à vélo, effectivement, donc quelques traumatismes crâniens, c'est une certitude. Mais bon, c'est les risques du métier. Et sinon, bah voilà, j'ai eu beaucoup de chance aussi à mon tour parce que dans mon parcours, bah voilà, j'ai pu bénéficier d'aide, j'ai pu bénéficier de coups de main, de services constamment, même encore aujourd'hui.
D'accord.
Et bah voilà, c'est des choses qui ont de la valeur et que je garde bien en tête.
D'accord. Ce matin, donc, vers 7h30, on avait un peu l'historique de Jean-Jacques Bourdin, comment il a fait pour démarrer. Alors toi, rappelle-moi, la première fois où tu es monté sur un vélo, tu avais deux petits trous derrière, je suppose.
Oui, j'avais deux petits trous derrière et ça a été très très vite la valse des cicatrices.
Ah, carrément. Oh, c'est joli, la valse des cicatrices. Et qu'est-ce qui t'a donné envie à ce moment-là de de t'accrocher à, on va dire, à quoi, cette passion, cette vocation, cette profession de foi, c'est-à-dire le vélo?
Alors, ça s'est pas passé quand j'avais deux petites roulettes, mais beaucoup plus tard, du coup, moi, j'ai repris mes études à l'âge de 21 ans. Et à l'époque, j'avais donc, c'était en alternance, et mon patron était à Pusignan, à 20 km de là où j'habitais. Il fallait y aller tous les jours pour pouvoir travailler et assurer mon loyer, assurer mon quotidien. Je n'avais pas le moyen de transport, il n'y avait pas encore les Tessel qui allaient là-bas, donc du coup j'ai acheté un vélo à 40 euros au marché, et ce qu'il y a c'est que 40 km par jour, au bout d'une semaine, il a fini par me dire « vas-y toute seule, moi je ne te suis pas ». Du coup il a fallu commencer à le réparer, les réparations ont été très onéreuses, donc du coup j'ai commencé à le faire par moi-même. Je me suis rendu compte que c'était extrêmement valorisant et satisfaisant de pouvoir réparer quelque chose, de pouvoir prendre un contrôle d'une manière ou d'une autre. Donc voilà, j'ai commencé à faire de la pratique du vélo au quotidien et de la réparation quasiment hebdomadaire, à fréquenter les milieux d'auto-réparation du vélo. Et j'ai continué mes études étaient payantes, et du coup, pour pouvoir subvenir à mes besoins, j'ai travaillé comme beaucoup d'étudiants voilà, de nos jours. Et au-delà d'être juste serveuse ou employée polyvalent, du coup, je me suis axée dans la réparation de vélo, notamment pour Vélove à Lyon, et où j'ai découvert effectivement une passion qui ne m'a plus jamais quittée.
Et quel a été le déclic qui a fait que tu t'es dit « allez hop, on va lancer les ateliers ». De l'audace.
Ah, ça c'est effectivement donc la solidarité, le vélo, et puis moi j'adore créer des choses. Donc c'était trois strates hyper importantes pour moi, travailler au quotidien avec ses mains, avec son cœur, mais aussi sa tête. Et
travailler quoi? Avec ses mains, avec son... Bon, on travaille pas avec son cœur, voyons, on est là pour travailler, on a un travail à faire et puis c'est tout. Ça se dit pas de travailler avec son cœur.
Alors ça ne se dit pas. C'est certain, et ça fait peut-être un peu ridicule. Toutefois, c'est des choses dans lesquelles, bah, moi, je suis fermement accrochée, et je pense au contraire, c'est ce qui fait toute la qualité d'un travail, c'est quand justement c'est fait avec amour.
Ah, mais moi, je suis fier. Là, je vais reprendre ton concept. On va changer de slogan sur Direct en jeu, on va dire travailler avec notre cœur, travailler avec nos sentiments. Alors là, c'est pas très fréquent. Alors justement, donc les ateliers, bah, tu aurais pu très bien ouvrir un magasin. Je pas être très gentil, là, tu aurais pu très bien ouvrir un magasin de cycles et de réparation de cycles traditionnels. Pourquoi aller plus loin encore?
Parce que le vélo, pour moi, c'est un support, ce n'est pas une finalité. C'est-à-dire que le but, pour moi, c'est les personnes qu'on accueille ici à l'atelier, qui ont eu des parcours particulièrement hors du commun, et il fallait bien trouver un terrain pour communiquer,
excuse-moi,
pour travailler ensemble.
C'est-à-dire quand tu dis hors du commun?
Du commun, c'est-à-dire ce sont des personnes qui ont pu avoir des grandes errances, des grosses ruptures sociales, qui ont pu avoir des handicaps, qu'ils soient effectivement moteurs ou cérébraux. C'est des personnes qui peuvent être voilà, issues du milieu carcéral, qu'ils soient majeurs ou mineurs. C'est des personnes qui sont également issues de l'immigration. Ouais. C'est des personnes qu'on ne croise pas au quotidien, en fait, tout simplement, mais par contre qui peuplent nos sociétés et qui ont toute leur place.
Et qui ont du talent.
Donc, comment ?
Et qui ont du talent.
Ah bah, ils ont... Mais absolument, ça c'est une certitude, c'est que toutes ces personnes-là ont énormément à apporter, et c'est à la société, à mon sens, c'est ma philosophie, de s'adapter pour leur laisser une place, et non pas à eux de rentrer dans le moule. Comme on dit chez moi, à force de vouloir rentrer dans le moule, on finit complètement tarte.
Ça c'est bien vu, ça moi j'aime bien. Dis-moi, donc, les ateliers d'audace, la base c'est donc d'ouvrir un atelier de manière que les gens puissent réparer par eux-mêmes, puissent amener leur véhicule, leur vélo, comment ça se passe?
Alors, la base, c'est du coup des personnes, que ce soit des particuliers ou des entreprises, des collectivités ou des groupements scolaires, etc., qui disent on a des vélos ou on veut des vélos et on veut les faire réparer. Et du coup, bah, soit ils nous amènent leurs vélos, nous on les répare, soit nous on a des vélos qu'on nous a donnés, qu'on répare et qu'on leur vend. Et du coup, ce sont donc nos techniciens et techniciennes, donc des personnes qu'on forme à la mécanique cycle, qui réalisent ce travail-là. Et du coup, pourquoi le vélo? Je disais tout à l'heure effectivement que c'était un support. C'est parce que c'est un outil qui est complètement universel et c'est un hyper bel outil pour créer du lien. Parce que je me tue à le répéter, mais je répéterai encore. En fait, on a tous une histoire avec le vélo, quelle que soit notre culture, nos origines, notre âge, notre sexe, etc. Donc mes parents ont des vélos pour autrui.
D'accord. L'association a été lancée il y a très peu de temps, en fait.
Oui, absolument. C'est-à-dire que ce projet-là, moi, ça fait plus d'un an que je le prépare. Il aurait dû, l'atelier, être ouvert la première semaine du confinement. Du fait du confinement, du coup, nous avons reporté ça bah forcément au déconfinement et nous avons pu ouvrir précisément le 18 mai. Et par contre, la publication officielle au journal a été organisée le 20 avril. Donc
Ok.
ça fait 2 mois d'existence.
Ah oui, donc c'est tout frais. Si je dis pas de bêtises, tu te trouves au cours de la République à Villeurbanne, c'est bien ça?
Tout à fait, au 61 cours de la République à Villeurbanne, mais
Dans
on
un
espère
local
bientôt
qui
changer
est,
d'adresse.
ouais, dans un local qui était énorme.
Oui, c'est une ancienne maison de maître, une maison bourgeoise qui, du coup, est destinée à la destruction d'ici 2-3 ans afin d'agrandir un groupement scolaire. Et nous, on a eu une chance énorme, c'est que la société Adbike a cru dans le projet que je leur ai présenté, que nous leur avons présenté. Et ils nous ont dit, Priscilla, c'est génial ton truc. Viens, on va te laisser un petit bout, donc 30 mètres carrés hein, précisément,
Oh, c'est
pour pouvoir
énorme, 30,
amorcer.
30 mètres carrés, on peut mettre combien? Combien de vélos?
Voilà. Alors en vélo, très peu, en pied de réparation, très peu également. Mais voilà, parfois on n'a pas besoin d'énormément de choses, il nous faut, suffit juste d'une amorce, d'une personne qui vous fait confiance pour que les choses puissent prendre une autre dimension.
Mais comme tu l'as dit, à un moment donné, comme d'ailleurs, l'objectif, c'est aussi d'accueillir des gens qui vont être formés. C'est de l'apprentissage, ça va être sur quel système?
Tout à fait. En fait, on va mettre en place des cursus de formation, que ce soit du savoir-faire
Oui.
ou du savoir être, parce que effectivement les deux paramètres sont hyper importants au quotidien et c'est pour ça que plus qu'une formation, on parle plutôt de transmission chez nous, pas uniquement donc des compétences, mais également donc une certaine amour entre guillemets pour le vélo. Encore une fois, c'est un terme que
Complètement.
j'utilise beaucoup ce matin. Et pour les plus volontaires d'entre eux, on ira jusqu'au diplôme, à savoir celui de CQP technicien cycle. Que ce soit du niveau 1, 2 ou 3, on les accompagnera jusqu'au bout de leur volonté. Donc en partenariat avec des structures de formation. Et également, on les accompagnera vers l'emploi avec effectivement donc tout un réseau de partenaires qui, dès aujourd'hui, en fait, veulent avoir donc de la main-d'œuvre compétente, formée, mais également pouvoir donner du sens à leur activité et surtout de la ch une chance à des personnes qui ne désirent que travailler et trouver leur place.
Quels sont les soutiens? Parce que tu as parlé quand même d'une société qui avait joué le jeu avec vous. Il y a eu des soutiens immédiats dès que l'idée a été lancée, le projet?
Alors, il y a eu des soutiens immédiats du monde associatif lyonnais et qui du coup, voilà, nous ont aidés en nous donnant des outils, en nous donnant également des pièces détachées, en nous prêtant des camions. D'ailleurs, je pense que s'il faut faire un remerciement, on va remercier Janus, on va remercier Le Chat Perché, on va remercier la Maison du Vélo de Saint-Priest et Cyclétique, en plus de Adbike et Doctibike. Mais
Oui.
je pense que si je continue, la liste va être énorme et du coup, pardon d'avance pour ceux que j'aurais omis de présenter. Et j'aimerais aussi remercier Vélo. Qui depuis mes 21 ans me suit et me soutient dans toutes mes aventures.
Est-ce qu'ils ont considéré qu'il y avait une fonction sociale derrière? Est-ce qu'ils ont considéré que c'était un métier qui n'existait pas? C'était une formation qui pouvait leur servir? Parce que je sais que Velov fait appel à des techniciens pour réparer les Velov. Est-ce que quelque part c'est aussi la possibilité pour eux d'avoir une structure qui forme des jeunes ou des moins jeunes et qui après vont intégrer leur entreprise?
Alors pour moi, je pense qu'il y a deux volontés. La première, c'est certes, c'est intéressé aussi pour eux
Oui.
d'avoir des techniciens qui leur sont envoyés, sachant qu'en plus de ça, Vélov a une conviction, il n'embauche que des personnes éloignées de l'emploi. C'est-à-dire que vous n'avez pas, voilà, monsieur, madame, tout le monde qui peut se présenter dans leur entrepôt. Eux, ce qu'ils veulent, c'est vraiment favoriser les personnes qui ont plus besoin d'un emploi. Donc, voilà, c'est quelque chose qui leur plaît. Et au-delà de ça, Vélov, même si à Lyon, il y a leur station à tous les coins de rue, eux en eux-mêmes, le côté humain, on le sent pas énormément. Et je pense qu'ils sont de plus en plus heureux de pouvoir avoir cette interface grâce à l'atelier où ils sont en contact avec bah, tout ce monde beaucoup plus social de Lyon, quoi, tout simplement.
D'accord.
Et j'aurais déjà présenté 5 profils l'année dernière qu'ils ont embauché un CDI.
Il y a, vers la mi-juin, tu as répondu à un reportage sur le JT local 19-20 du Grand Lyon, donc France 3, région, et tu parles et on parlait de coup de pouce vélo. C'est la même chose ou c'est une structure qui aide ?
Alors, le coup de pouce vélo, c'est donc une aide qui a été mise en place par l'État. Parce que nous avons à Lyon des aides de la métropole lyonnaise, mais nous avons également donc l'aide nationale de l'État, qui est le coup de pouce vélo, et qui consiste à, pour chaque personne qui a un vélo, avoir droit à une aide de 50 euros pour le remettre en état, pour le faire rouler. Le principe, c'est réactiver une flotte de vélos dormants qui est donc soit dans les caves, les greniers, les parties communes, pour que les gens puissent se remettre à la mobilité active, surtout que c'est une question de santé publique, après 2 mois d'immobilité pour tout le monde.
D'accord.
Donc ce coup de pouce vélo, nous le réalisons à l'atelier de l'Audace, et il vous suffit pour ça de venir avec un formulaire qui est rempli sur Internet, c'est avec un numéro de dossier, et nous on prend votre vélo et on vous fait donc le maximum de réparations, avec effectivement donc ce don de 50 euros.
D'accord. Ce matin, on entendait sur l'antenne de France 2 des éléments concernant le fait qu'à Lyon, nous avons un nouveau maire qui s'appelle Grégory Doucet, qui est écologiste et qui a l'air de dire qu'il voudrait rendre la ville 100% cyclable et piétonnable. Est-ce que c'est quelque chose qui est très important, en dehors de toute connotation politique, hein, si je puis me permettre, mais est-ce que c'est le fait d'avoir ce développement, ce souhait d'une écologie et d'une ville plus propre, est important dans ton développement ?
Alors oui, bien sûr, parce que Lyon, de tout temps, en fait, on a dit que c'était une ville qui était assez idéale par ses proportions qui sont à taille humaine, en fait, tout simplement. Une ville humaine, forcément, c'est des choses qui nous tiennent très à cœur. Et pour ça, en fait, il faut qu'on puisse avoir des rues qu'on s'approprie, des espaces, des moments où on se sent pas uniquement en mouvement, mais où aussi on peut profiter de l'extérieur sans avoir de crainte, sans être dans l'insécurité ou l'incivilité.
Exactement.
Et pour ça, en fait, il faut reprendre le contrôle de la mobilité et savoir vers quoi est-ce qu'on s'oriente, en fait. Les choix d'aujourd'hui, en fait, ils sont extrêmement stratégiques en termes d'apaisement de la ville, pour savoir effectivement une ville où il fait bien vivre, où on a un certain bien-être. Ça, c'est quelque chose qui sont très importants pour moi, donc à mon niveau, donc au niveau de la ville, ça va pas dénoter. Et la deuxième chose, effectivement, c'est que la planète, être responsable par rapport à ce dont on a hérité et ce qu'on va effectivement transmettre, c'est extrêmement important. Et pour ça, bah, je sais qu'il y a des décisions qui vont être rudes à mettre en place, mais à mon sens, c'est qu'actuellement, on n'est plus dans une nécessité de transition, il y a une nécessité de rupture. Donc certes, parfois, on demande à tout le monde des efforts pour dire bah voilà, l'économie va mal, on va tous devoir travailler plus, on va devoir supprimer des minima sociaux, on va devoir supprimer des associations, on va devoir supprimer des aides, etc. C'est des choses qui sont constamment acceptées par tous. Bon, bah là, je pense qu'effectivement, il va y avoir des changements qui seront plus rudes, avec peut-être du stationnement en moins, peut-être avec des rues en moins, etc. Mais par contre, le bénéfice sera immédiat pour tout le monde. Donc, voilà, je pense que une politique de rupture, moi, en tout cas, je pense que ça va être pas facile, c'est certain, mais je suis pour, en tout cas.
Priscilla Petitjean des ateliers de l'audace. Oui, Priscilla Petitjean des ateliers de l'audace sur Direct Angers, la radio insolite. Bon, maintenant, on attaque les questions un peu plus insolites.
Allons-y.
Alors, attention, première question. Vélo traditionnel ou vélo à assistance électrique ?
Vélo traditionnel, tant que j'aurai des poumons et des mollets, je continuerai à avoir un vélo traditionnel, surtout que je suis très branchée vélo vintage, donc j'ai encore les leviers au niveau du cadre, au niveau des vitesses.
Ouh là là, c'est une pièce de collection, ça, c'est pas possible.
Ouais, donc voilà, vélo traditionnel, voire même très très traditionnel.
Ouais, mais enfin, comment tu fais pour monter la Croix-Rousse ou pour aller à Fourvière avec un vélo traditionnel?
Alors, je fais un truc extraordinaire qui s'appelle prendre le temps. Et du coup, voilà, donc j'ai la chance, certes, d'être plutôt jeune et en bonne santé, mais je connais des personnes qui ont jusqu'à 70 ans et qui tous les jours se déplacent jusqu'à la Croix-Rousse avec leur vélo. Et la seule chose qu'il y a, c'est qu'ils ne cherchent pas à battre des records et ils savent que ils vont prendre le temps pour y aller. C'est une façon différente de vivre son quotidien.
D'accord. Deuxième question. Écoute, le logo des ateliers de l'audace, c'est une roue, mais avec un tour qui est marron. Il y a une erreur, il y a une faute de couleur là, c'est pas possible. On est en 2020.
Oui, alors, encore une fois,
attention, il y a quelque chose derrière, méfie-toi, vas-y.
Le pneu marron, à la base, c'est assez vintage, certes, mais c'est aussi le côté traditionnel de la bicyclette. Et l'air de rien, en fait, ça fait que 100 ans, un peu plus, on va dire 120 ans, que le vélo, est dans notre quotidien. Et l'air de rien, on n'a rien réinventé dessus. On lui a mis un moteur assez récemment et une batterie très polluante, mais sinon, on n'en a pas à réinventer l'eau chaude.
Je suis d'accord, mais là, je vais te tendre une perche. En 2020, logiquement, cet atelier de l'audace aurait dû avoir un rond jaune.
On a aussi différents.
Pourquoi jaune différents? Pourquoi jaune? Allez, trouve le truc. Pourquoi jaune? Pourquoi jaune?
Pourquoi jaune? Je ne sais pas. Actuellement, les gilets jaunes.
Non, t'exagères, ce n'était pas ça. Sauf erreur, ça va être le bonheur. Alors, tu es à Villeurbanne. Dans la ville d'à côté, il va y avoir un événement cycliste, je crois, qui était prévu au mois de juillet, qui est reporté au mois de septembre.
Ah, le maillot jaune.
Bravo.
Excuse-moi.
Comme disait Jean-Luc Bourdin, tu as gagné la machine à café. oui, on a le tour de France qui vient. Alors, moi, j'ai vécu le Tour de France et j'avais vécu le centième anniversaire et l'arrivée en 2013 à Lyon. Mais là, ça va être une arrivée d'étape de Clermont-Ferrand à Lyon et un départ en direction de la montagne, je ne sais plus où exactement. Donc, est-ce que c'est important, comme hier, le passage du Tour de France, deux jours, dans notre belle métropole lyonnaise?
Mais bien sûr que c'est important, ça veut dire que la ville compte, et puis le Lyon c'est quand même un des berceaux de l'industrie du vélo, donc oui effectivement, revenir effectivement, sur les premières traces du vélo, ça reste pour moi un passage obligatoire, et je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui l'attendent, ça fait partie de la culture vélo.
Est-ce que ça veut dire que la semaine précédente tu vas organiser une rando vélo, des ateliers de l'audace, tu vas faire quelque chose, tu vas marquer le coup par rapport à l'événement?
Alors nous, on essaie de se rapprocher du Tour de France parce que c'est des choses que j'essaie de faire découvrir donc à mes équipes. Mm-hmm. C'est le vélo sous toutes ses formes et donc du coup il y en a une, c'est le Tour de France. Donc aller à la rencontre pour voir ce que c'est que des écuries de vélo, pour voir ce que c'est effectivement donc des techniciens sur des vélos haut de gamme. Qu'est-ce que c'est qu'un vélo haut de gamme, etc. C'est par rapport au Tour de France. Sinon les randos vélo, donc là cette année ça va être trop tôt pour l'atelier pour organiser ce genre de choses-là, parce mm-hmm. qu'on n'a pas encore les épaules, mm-hmm. mais c'est certain que c'est des choses qu'on partage et qu'on va mettre en place. Donc à très bientôt pour des randos avec l'atelier vélo.
Parfait, nous qui avons suivi la Véloparade de la Maison du Vélo au mois de décembre et puis qu'on a un tout petit peu couvert pour la journée des droits de la femme, j'aurais plaisir à suivre vos randos. De quoi tu aurais besoin demain? Autant profiter comme manière d'avoir cette vitrine. Est-ce qu'il te faut un local de 400 mètres carrés? Est-ce qu'on doit demander, à Decathlon d'aller déménager pour te laisser les locaux, pour avoir plein de gens? Qu'est-ce qu'il te faut exactement là?
Alors oui, effectivement, c'est une excellente question.
D'excellentes questions, je te remercie. Si je t'écoute.
Quelle humilité. Comme toute structure naissante, nous avons énormément de besoins et donc toute aide sera la bienvenue. Mais si je devrais réellement cibler là actuellement ma demande, nous cherchons un atelier qui est beaucoup plus grand parce que nos 30 mètres carrés, ça n'est plus possible du tout. Tu as dit 400 mètres carrés, ce serait idéal, naturellement, si possible dans Lyon et à proximité des transports en commun, Lyon ou Villeurbanne, et à proximité des transports en commun parce que le public qu'on accueille encore une fois, les transports en commun, ça peut être un vrai frein pour le retour à l'emploi et qu'il faut qu'on puisse rester accessible. Donc 400 mètres carrés, c'est l'idéal et le minimum parce que du coup, ce serait 200 mètres carrés en fait. On a publié une annonce où on met 100 mètres carrés, mais en fait, il nous faudrait déjà 200 mètres carrés.
C'est bien. Ça veut dire qu'il y a un sacré potentiel qui peut se développer.
Ah oui, tout à fait. Et puis surtout, en fait, si on arrive à avoir ces locaux-là, on peut créer 2 emplois en CDI dès la rentrée. Et ça, ce serait un énorme accomplissement pour une petite association qui n'a pas forcément beaucoup de prétentions, si ce n'est celle de vivre de sa passion.
Écoute, c'est joliment dit. Deuxième question, on ne peut jamais savoir. J'ai un vélo que je n'utilise plus dans ma cave. Qu'est-ce que je peux en faire?
Écoute, tu peux nous le donner.
Voilà.
Parce que nous, pas de vélo, pas de boulot, pas de formation. C'est réellement ce qui fait tourner, c'est notre matière première. Donc actuellement, oui, nous avons besoin de vélos. Nous avons besoin de pièces détachées, nous avons besoin d'outils, nous avons besoin également de vestes, de blouses de travail pour nos techniciens. On a besoin de chaussures, on a besoin d'absolument tout. Le but, c'est de pouvoir donner un environnement de travail qui soit le plus sain possible. Et pour ça, il faut qu'ils puissent avoir tout le matériel et qu'ils aient les meilleures conditions de travail.
Bon, bah écoute, qu'est-ce qu'il faut te souhaiter là? L'été, ça va se passer comment? Si peut-être, pardon, parce qu'on est quand même le 10 juillet, tu vas fermer, tu continues à chercher ton local?
Nous serons ouverts tout l'été. Nous allons continuer de chercher tout ce dont nous avons besoin pour que l'activité puisse atteindre ses objectifs, à savoir ces deux emplois en septembre qui nous tiennent beaucoup à cœur. Et voilà, qu'est-ce qu'il me faut me souhaiter, enfin nous souhaiter, du cœur, du courage, c'est une certitude, mais aussi de pouvoir effectivement convaincre les personnes, les clients, quels qu'ils soient, pour qu'ils puissent d'un côté soit nous donner des subventions, soit effectivement miser sur nous, soit nous faire confiance, nous confier leur vélo, et nous donner également un truc qui est comme toi, c'est nous donner de la visibilité. Parce qu'effectivement, quand on ne parle pas d'une structure, elle n'existe pas. Et c'est pour ça qu'on voudrait te remercier tous chaleureusement ce matin pour la chance que tu nous donnes.
Écoute, je te remercie parce que j'ai encore relancé quelqu'un de la culture lyonnaise hier en disant que j'avais du mal à comprendre. Depuis le mois de mars, il ne communiquait pas. Et nous, durant le confinement, on a continué à communiquer. C'est un peu notre profession de foi. Puis je voulais aussi te remercier toi parce que quoi que tu puisses dire, il est très facile de réaliser une interview avec des gens qui ont des choses à dire, des gens qui ont... des choses dans leur trip, et tu en fais partie, et rien qu'à t'entendre parler, on sent que tu es vraiment passionné, et puis je vais dire, je suppose aussi pour en finir que tu es quand même un peu audacieuse.
Oui, parce que voilà, c'est la devise des ateliers d'audace, c'est que dans la vie on peut manquer de tout, mais pas d'audace.
Très joliment dit, je te remercie, et puis au plaisir de te retrouver très vite.
Plaisir partagé Alain, et puis